race de Barbezieux. Nouvelle qui aurait dû paraître à la suite de Jacques et nous autres dans Évocation. Il y avait une fois, autrefois, une petite ville dans une couronne de grands jardins, seringas, cèdres, tilleuls, une belle au jardin dormant. Son cœur était un nœud d'étroites rues montant de la place de l'église à celle du château autour d'un hôtel du XVIIIe siècle, demeure privée d'un juste sénéchal d'ancien régime, devenu sous-préfecture de la Troisième République. L'îlot vert de son jardin, la Française, surplombait des cours pressées à la verre de dignes ou modestes maisons satisfaites d'avoir façade sur rue. Quelques raies de soleil ou de lune touchaient de ci de là un espalier, le puits mitoyen, une lessive entre des murs crêtés de chats. Matou dont les délirantes, les déchirantes sérénades troublaient trop souvent vers l'équinoxe les nuits de printemps. Dès 8 heures, le matin, des dames gantées ouvraient et refermaient la porte vernie où le facteur a glissé le courrier et se dirigeaient vers la messe quotidienne. Les femmes de chambre, penchées à l'étage, échangent d'une demeure à l'autre des confidences en secouant les carpettes. Fenêtres fermées, filtrées à travers vitres et tulle, les gammes et les vocalises de jeunes filles préparant la leçon de piano ou de chant. L'après-midi, les Jeanne, les Madeleine, les Marguerite se retrouvaient soit au cours de dessin, soit dans les salons maternels, faufilant des chemises de toise bise pour les petites filles du patronage. Il y aura le soir des bals dans ces salons. Deux fois le jour, les bonnes mènent de la rue Orgueilleuse à celle des remparts ou des basses douves, les enfants jusqu'aux portes du collège ou du couvent. De la Croix du Rat, par la rue de la Tappe, du sentier Trique-Dondaine, arrivaient tête nue des marmots aspirés vers la maternelle. Le catéchisme du jeudi les agglutinait tous à l'église Saint-Mathias. Deux fois la semaine, le marché matinal accroche ses étals aux escarpements de l'étroite grande rue. Et deux fois par mois, la campagne, cabriolets et piétons, chargés de volailles, poussant devant soi le bétail, comblaient places et foirailles. Le château là-haut regardait ou ne regardait pas ses minimes agitations, contemplant à longueur de siècle son tour d'horizon. Tout en bas, le boulevard contournait à demi la ville entre le double tunnel d'ormes planté au temps des diligences par le marquis de Reverso, l'édile Saint-Onget d'avant 1789. De chaque côté du tronçon barbezilien de cette route Paris-Bordeaux-Madrid, ces arbres étaient encore fluets lorsque, allant à la guerre d'Espagne, Napoléon arrêtait une nuit à l'ancienne boule d'or grâce à une glace de mauvaise augure. Y avait-il eu déjà là de précédentes files d'ormes, de platanes, au temps où l'adolescent Louis XIV galopait en carrosse à grand relais jusqu'à Saint-Jean-de-Luz et la blonde infante Marie-Thérèse? Depuis des siècles, cette voie gallo-romaine d'Aquitaine avait retenti de cliquetis d'armes et d'armures, d'étincelles de fer à cheval. Depuis le Moyen-Âge, y paradaient au carnaval à la mi-carême, bœuf gras, des cavalcades. La Troisième République avait baptisé boulevard Chanzy et boulevard Gambetta, ou vice-versa, les deux doubles frondaisons d'arbres centenaires de l'allée basse et de l'allée montante. Avant les interdictions des années 1905 et 1906, s'y déployaient magnifiquement, foulant des roses, les grandes processions des fêtes de Dieu. Les beaux dimanches, en cette fin et ce début de siècle, les jeunes filles, aux chapeaux fleuris, sages ou gentiment mutines, ouvraient, refermaient sous les allées leurs ombrelles claires. Les dames de Barbezieux, relevant d'une main grantée de Suède leurs jupes sur des chevilles exemplaires, promenaient de dignes enfants, garçonnaient à col marin, fillettes à longs bras noirs bien tendus jusqu'au-dessus de genoux, rejoignant le jupon festonné sous la robe courte. Les messieurs à moustaches aiguës allaient et venaient avec des moulinets de canne, canotiers de paille ou melons sous la tête selon la saison, parlant politique et rêvant de la fleur d'une rosette pour la boutonnière de leur redingote. On voyait, au retour de quelques galops sur les collines, 3 ou 4 cavaliers guettrés et promenés, parfois une amazone en longue jupe de souple drap bleu, un voile tombant du haut de forme à la nuque, cravache en main grantée, maîtrisant des chevaux nerveux aux flancs moires et d'écume. Au soir, sous le rond des abat-jour, les enfants apprennent leurs leçons, poussent aux oreilles, écoutent l'histoire racontée ou lue par la mère, la romance sans parole jouée à l'harmonium par le père. D'autres messieurs très bien, après le dîner familial, se retrouvent pour les manies au cercle illuminé. Tardivement, certains, évitant la clarté diffuse des réverbères, se glissent à l'heure des matous vers des seuils entrouverts. Solitaire, l'épouse a peut-être accueilli une ombre furtive. Tel autre égrène un long chapelet près des berceaux. Sous beaucoup de toits, les longues nuits d'hiver eussent été coites sur les trous moelleux et dredons qui engendrent les cauchemars. Tombait du clocher sur des toits pressés entre les murettes, toute la nuit, tout le jour, les quarts d'heure tranquilles. À cette époque, le canton de Barbezieux se glorifiait de produire la plus grande poule de France, assez médiocre, frondeuse, trop lourde couveuse, difficile à élever, mais poularde tendre, charnue et parfaite sur la table. Le coq immense dressait sur de hauts ergots une puissante carène plaquée d'un plumage d'acier noir crêté d'un vif vermillon. Cette noble volaille, peu prolifique, dont la saveur avait, dit-on, inspiré le vœu d'Henri IV, croissait lentement, sans plus m'étard, refusait de s'adapter à tout autre terroir que le Barbezieux dont elle illustrait le nom. Ces difficultés ont peu à peu découragé les éleveurs. La race géante s'est éteinte. Tandis qu'elle prospérait en pleine gloire, deux garçons, deux amis lui consacraient au jardin de Musset une part appréciable de leurs activités. Sous le chaume de la petite maison dont ils avaient chassé les candides poupées des cadettes ou les fossiles et coquillages de leur propre musée, mais ceci a déjà été compté, J.B. et H.F. périodiquement recommençaient leurs élevages, repeignant aux quatre murs leurs initiales accouplées, délavées depuis le fiasco d'une précédente expérience. Celle-ci serait la vraie, l'exemplaire, rémunératrice et promise à la gloire des concours. Une rame de papier grand format, timbrée à l'angle d'un coq noir, fut confiée à l'imprimeur local. Première mise de fonds qui dut grever dès le début une affaire à bénéfice aléatoire, dont Jacques et Chardonne dit dans Le Bonheur de Barbezieux, nous avions un commerce de poules très onéreux. Sur le papier grand format, tout en haut, en belle majuscule, s'étalait le mot aviculture. Élevage de volailles, médaille, premier prix, diplôme d'honneur, spécialité de la race de Barbezieux. À vendre, volailles vivantes, des races de Barbezieux, Brahma, Houdan, Faverolle. Eux à couver. Prix à la douzaine, 3 à 4 francs. Les marchandises ne sont livrées que contre remboursement. Ben, fut observé le jardinier, après des chiffrements impressionnants de l'entête, vous auriez des copies de sang dans toutes ces races, s'il n'y avait pas qu'en écrit sur le papier. Il va sans dire aussi que médailles d'or et autres récompenses n'étaient encore qu'en espérance, dans l'œuvre. Cette basse cour avait causé aux jeunes aviculteurs plus d'un déboire. À preuve, la seule lettre qui est surnagée aux archives du vieux Musset. En saison à Royan, J.B. écrivait à son associé H.F. « Mon cher Henri, voici la lettre que maman a reçue de Madame Philippe Delamain. Dites à votre fils Jacques qu'il ne sera un parfait et honnête commerçant que lorsqu'il m'aura rendu 9 œufs, 3 œufs seulement ont éclos sur 12. Que fait notre coq ? Et j'ai payé 5 francs les 12, garantie bon. Mon cocher en prendrait aussi une douzaine à 5 francs, mais avec promesse de rendre les œufs clairs. Donc, il peut nous envoyer 14 œufs de Barbezieux pure race et des œufs de poule fléchoise pure race aussi. Tu pourras envoyer le catalogue à Madame Delamain. N'écrit à moi et à elle qu'avec le papier d'affaires. Pour les poules la flèche, tu enverras les œufs si bon marché dont tu m'avais parlé. Tu écriras à Madame Delamain une lettre d'excuse. Jacques. À quoi songeait donc ce coq, en effet ? Des fautes d'orthographe disséminées dans ces lignes, Madame Delamain ne peut être soupçonnée. Ce sont erreurs de copie dues à l'émotion de l'éleveur. Chardonne a fait depuis l'aveu des difficultés qu'il eut longtemps avec les règles grammaticales et mots usuels. Il est vrai, constate-t-il, toujours dans Le Bonheur de Barbezieux, j'ai passé plus tard des examens, c'est incroyable. L'orthographe est un don des faits, gratuit. H.F. et plusieurs de ses sœurs, G.F. excepté, l'avaient reçu. À J.B., comblé de tant d'autres faveurs du destin, celle-là n'était pas échue. Périodiquement, pour une sordide question de nettoyage, sombrait l'entreprise volaille. Baptiste, le cocher jardinier, avait à ses affaires avec le charroi du fumier, des curies à potager. Encore l'odeur des crottins frais, celle de la prairie, des bouches claquées avec quelque chose de sain, d'agreste. Agressive, répugnante, celle qui enduit les perchoirs et s'entasse au-dessous. Les premiers temps, tout allait bien. Un récurage quotidien s'instaurait, s'imposait. Mais pour peu qu'il fût différé, on se trouvait débordé. À la longue. De plus, malgré les plumes coupées aux ailes, les pondeuses trouvaient le joint où passer les grillages, cachaient des œufs rares, au fouillis des lauriers, des mousses. De trop pesantes mers cloques écrasaient les poussins encore humides, à peine écoquillés. Le coq, trahissant son harem, lutinait les vulgaires poulettes sans pédigree de la picauderie, les poulardes de Fontchâtelet ou d'un quelconque voisinage. Il n'était pas question dans cette brasse-cour précaire du chapon que Brillat Savarin appelait coq vierge de Barbezieux et appréciait bourré de truffes à tout rompre. Mieux valait liquider ces décevantes volailles et les vendre à tout prix. On évitait d'identifier sur la table familiale l'éthique cochère rôti, fils unique de la trouveuse artificielle, ou l'antique poule haute peau, doyenne de l'élevage périmé. Un petit monde d'autrefois qui se croyait définitif est mort, tué par une guerre, cet anachronisme. Les enfants nés pendant cette première guerre ne savent pas qu'ils en verront une autre, ou mourront par elle, au moment d'atteindre l'âge de procréer une nouvelle génération. À Barbezieux même, le château qui depuis des siècles n'a pas vu l'ennemi du dehors en subira le flux. Et le refus, lui arrachant musée et archives, ne laissera au sable dévasté que détritus et graffitis, dégorgeant par un sous-sol ses habitants épouvants. Oh! Rue Sadi Carnot, la plus importante des maisons bourgeoises, flambe, dégorgeant par un sous-sol ses habitants épouvantés. Et là où les processions foulaient des pétales de roses, plusieurs cadavres jetés comme de vieilles défroques jonchent l'allée montante. Cependant, entre les deux conflits mondiaux, et pendant toute leur durée, les heures, les quarts d'heure n'ont pas cessé de tomber du clocher sur les murettes, les toits, les chats, les poulailles. Entre-temps, en tout temps, l'enfance continue ses jeux. Entre deux hécatombes, dans un autre canton du même terroir, pas plus de règles grammaticales, de systèmes métriques que chez ces jeunes d'une deuxième époque. Moins de magie, de mythologie, de tragicomédie. Pieds au sol ou en porte-à-faux sur les tuiles de toits précaires. Toujours pourtant, avec l'irrésistible vocation des entreprises hasardeuses, la véhémence de désir, l'oubli des échecs, l'intermittente persévérance, l'immortelle espérance. Quand ils s'échappent de la maison, cette volière, vers quel point de l'horizon, champ, bois, les appeler? Mais la mare, où naviguer sur des couvercles de lessiveuses, les ramène, des étangs et le poulailler les retient. Le matin, pas de bruit dans la chambre. Un petit rouge-gorge d'hiver chante de l'autre côté du contrevent. Le bébé qui se réveille dit « Ça a l'air ma fête aujourd'hui, il y a un petit oiseau qui fait tire-lili. » Dans leur lit, les aînés, éreintés des exploits de la veille, ne remuent pas encore. Ils appellent ça couver leurs rêves. Ensuite commencent les escarmouches. Plus tard commencent les travaux variés. Faute de couveuses artificielles, on en achètera une sur les bénéfices. Les dindes, dit-on, sont d'admirables couveuses naturelles, prêtes à une large incubation en toute saison, persévérant jusqu'à la mort pour peu qu'on les oublie sur des œufs clairs. Le dindon lui-même ne répugne pas à siéger patiemment sur quelques douzaines. Bien cité n'est pas une utopie, bien que son poids soit un inconvénient. Mais, songe le conseil d'administration, il est prudent d'éprouver d'abord sur des pommes les aptitudes de l'apprenti couveur et de consolider sa constance d'une tuile romaine posée sur le dos. Les pommes n'ont jamais éclos. Trois douzaines d'œufs non plus. Par-delà bien d'autres déboires, en avant. Au crayon rouge, au crayon bleu, s'établit en première plage d'un cahier neuf le tableau d'aponte des poules. NB. À la fin du premier mois, un œuf de plus par douzaine sera offert à la clientèle. Première semaine, lundi, 0, mardi, 0, mercredi, 0, jeudi, 0, vendredi, 0, samedi, 0, dimanche, 0, total. Deuxième semaine, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Troisième semaine, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quatrième semaine, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Plus question pourtant de la race de Barbezieux, fond de Savard. Il est vrai que ce mois décembre, solstice d'hiver, bientôt l'équinoxe de printemps, espoir. Volailles, lapins. Les lapins si prolifiques ne donneraient-ils pas plus de profit? Mais quel appétit! Chacun absorbe plus que son poids de quotidienne nourriture. Et que faire tapis dans une étroite cage grillée à manger, à moins que l'on ne mange? Introduire ces quantités d'encombre en tration par d'étroites portes n'est pas facile. Herbes, laiterons, épluchures de cuisine, surtout aliments de base, la feuille de chou imprègne de son relent vulgaire la chair des reclus marinant aux vapeurs ammoniacales de leur urine. S'éviter beaucoup de tracas, d'inconvénients et donner à ses captifs les aises de la liberté, la saveur des garennes, voilà qui pourrait sans doute être réalisé grâce au lapinifuge. Ce produit dont on imbibe des cordes tendues de court piquet à court piquet, explique une réclame, protège radicalement dans les pays giboyeux les cultures contre les incursions des lapins sauvages et des lièvres. Le cordon protecteur de zones interdites ne pourrait-il délimiter plutôt un paquage ou lâcher les tristes prisonniers des clapiers ? Astucieuse idée, simplificatrice comme toute idée de génie. Christian cloue et cloue de jour en jour, de piquet en piquet, l'auteur de l'astuce imprègne longuement les longs cordages, puis cloue et cloue de jour en jour et de piquet en piquet l'infecte serpent sans tête ni queue, sans fin. L'opérateur, repoussé de la table familiale, prend de solitaires repas au milieu d'un prix. Tout le pourtour du clou est enfin bouclé. Celui qui s'imposait un pareil purgatoire guette les réactions de l'agent lapine lâché parmi le thym et la rosée. Paradis. Mais les reclus flairent la liberté d'un nez soupçonneux. Quel danger cache dans l'éclatante lumière ces espaces infinis? Le guetteur derrière un génévrier attend. Frères, gosses de la métairie attendent, tapus au buisson. La virevolte déclenchera tel sur que le choc entre flair et planteur. Et voilà que sans le moindre recul, la moindre répulsion, les 24 lapins, l'un par-ci, l'autre par-là, franchissent avec simplicité la repoussante ligne de démarcation, s'égaillent tout innocemment sur la pente du fruit défendu. Un moment plus tard, sous le soleil qui exalte les odeurs, alertés, les chiens des alentours déchiquettent, dégustent ces longues zones de saucisses grasses à friandante de gadou, d'Afrique. Autres expériences sont tentées. Salamandres, souris blanches, furets, hannetons, coccinelles. Même un couple de fennecs tunisiens natifs du désert échappés à la cage va se perdre dans les taillis saintongeais. Il ne semble pas qu'il y ait fait souche. Pas plus que les escargots géants de Bourgogne, issus d'une région moins exotique et hermaphrodite, qui cela du moins aurait dû se reproduire. Les années passent, ces enfants vont s'éparpiller. Quatre garçons, la fille au milieu, que les frères appellent fille unique. Le plus petit trouve à cette épithète quelque chose de rare, de flatteur. Lui, il est encore à la mesure des bras et des genoux de sa mère unique. Parfois, souvent en colère, il dit « Je voudrais une autre mère que ça !» Puis il se reprend, se te pourrit. Et voilà que l'âge des initiatives lui vient, l'âge de reprendre la relève des aînés partis au loin. Il a hérité de beaucoup de livres d'agriculture, poules qui pondent, poules qui paient. Et pourquoi ne pas lui-même remettre à l'honneur l'antique race de Barbezieux ? Recherche difficile, on ne retrouve plus que des spécimens bâtards. Après tout, les espèces vulgaires qui dédaignent les perchoirs du poulailler et dorment aux branches hautes des sureaux donnent moins de tintouin et plus d'œufs quand on les retrouve, au hasard des nids disséminés et dissimulés. Cela laisse des loisirs pour d'autres reprises d'élevage. Volailles, coccinelles, lapins. Une lapine géante, coûteuse, occupera le clapier vide depuis l'expérience lapinifuge, fera souche d'une nouvelle lignée de l'époride et promet de meilleurs profits. Les semaines passent, 4-5 semaines. Pour une raison ou pour une autre, le carnet où sont prévues date de naissance, poids de petit, vente, rapport total, est resté vierge. Simple inadvertance. Un enfant des campagnes n'a pas besoin d'initiation pédagogique pour connaître le mystère de Dame Nature. Bientôt, le carnet insère « Mise au mal le 20 avril ». Il a été impossible, malheureusement, de retrouver un géniteur digne de l'épouser. Puis, amené, mis bas en bon français, le 20 mai. Hélas, la mention « vente des petits » rassemblant. Hélas, en toute dernière page du carnet, sous la triste prévision « mortalité », on enregistre « décès 8, dont 5 mangés par le chat, reste 0 ». Zéro absolu sont les traditions. Généralisation quelque peu hâtive et calomnieuse. Il y avait eu des réussites. Entreprise lancée dans la foi, l'espoir et la passion, des boires toujours oubliés, dépassés. En cette deuxième moitié du siècle, quelques individus lointains descendants de l'antique génération lapinifugée subsistent encore dans les fourrés pour la consolation des chasseurs aux automnes sans gibier. Quelques rares pintades, pensionnats jadis prospères qui sont l'uniforme gris pointillé de blanc, tout à coup jetaient précipitamment de hauts cris éraillés, réduites à quelques craies des barbillons écarlates et gagnent n'importe où en silence d'introuvables petits œufs blancs tablés de gris. Les canards babillards pondent dans la vase noire des mares. De blancs coureurs indiens se sont évadés, il y a beau temps, vers les lointains horizons. Mais depuis que de soigneux dossiers n'enregistrent plus ces produits, la biquette mûre et barbue, année après année, met bas d'un coup deux, comme il est normal, puis trois, puis quatre vivaces chevreaux et traîne à terre l'outre d'une mamelle intarissable. Sollicités comme les coureurs indiens par d'autres horizons, les jeunes éleveurs Saint-Ongeais se sont éparpillés près ou loin sur la boule ronde. Cette race de jeunes copés de sang, sans d'autres provinces, sans d'autres pays, c'est au contraire des purs volailles du barbezieux adaptés à des conditions diverses sous d'autres méridiens. Ils partent bardés par les expériences, blindés contre les adversités, instruits par l'absurde et le succès riche aux audacieux. Nourris d'un bon sol, fruits d'un bon cru, point crucial entre le zéro des longitudes et le 45 de latitude, ils ont gardé la sève, mûri et épanoui le rêve d'un vieux terroir et d'une hellénique enfance. Longtemps, ils ont frémi devant les contemporains, happés dès le berceau par l'engrenage de progressives études, hissés de classe en classe, d'examen en examen jusqu'au suprême diplôme. Il est vrai, a écrit J.B., docteur en droit, Sciences Po. Ils ne savent pas s'ils sont fiers ou honteux d'avoir été de vrais enfants qui ont eu le loisir et le génie des jeux, enfants du plein air, de soleil et d'ombre, d'arbres de soleil. Mais ils plantent au but leurs flèches jaillies des arcs qu'au jardin d'autrefois, ils avaient en se jouant bandés. Ils sont partis au loin, ils reviennent au pays natal. Hélas, vous n'irez plus au bois, les lauriers sont coupés. À Barbezieux, la haute et noble frondaison d'ormes centenaires, les allées sont coupées. Replantées de minces tilleuls qui plus jamais, au grand jamais, n'en reformeront le style et les voûtes. Sous les adolescents tilleuls, Unter der Linden, où la guerre entre l'allée et le retour des 1940-44 paraît l'occupant, au jour d'aujourd'hui déambulent des adolescents ambigus, cheveux courts, tête nue, cuisses nues hors du short ou moulées de slacks jusqu'à la cheville. De très vieilles dames, reliques du siècle antérieur, ne discernent qu'aux lèvres et aux ongles d'un carmin plus aigu, lesquels de ces jouvenceaux sont jouvencelles. De plus jeunes vieilles, crainte d'être assimilée à leur devancière ou même à des puits nés sans dynamisme, maquille outrageusement du temps l'irréparable ouvrage, copiant et adulant la toute dernière écoquillée des nouvelles générations. Modérant impatiemment allure et klaxon, de puissantes voitures dépassent les transports rapides, mastodontes, moins rapides qu'elles-mêmes, s'échappent sur la toute neuve autoroute qui coupe l'allée basse de l'allée montante, plongeant celle-ci dans le marasme. Café déchu, épicerie réduite à une clientèle d'avant 1900, boule d'or qui ne restaurera plus prince de ce monde ni ex-roi. La couronne des profonds jardins dormants, berceaux oiseaux, est désormais débordée par de menues villas dont les criards de peinture lue hurlent de voisiner. Ô Mogador, Essaouira, d'autrefois et d'aujourd'hui, porte linteau de tous les bleus les plus exquis dans l'épaisseur des choses éclatantes, cité blanche aux remparts gris, accordée à l'océan qui l'assaille ou la reflète, vieille cité maghrébine et portugaise qui mêle Angélus à Mezzin. Cependant, pour ceux-là qui reviennent d'Asie ou d'Afrique, tombent encore et toujours du clocher de Barbezieux, parmi celles des messes, des 96 exactes de sonnerie des 24 heures, et les coques du tour d'horizon, d'extrême-orient à extrême-occident, les nuits de lune, les nuits de brume, et veilleront toujours l'aurore. Je suis très pas satisfaite de la façon dont je l'ai lu, parce que j'avais mal à la gorge, mon petit appareil dentaire qui j'habitais.
Non, c'est bon.
C'est bon. Je trouve ça pas bien. Et puis j'ai fait des bœufs à certains moments, des bafouillages.
Je suis obligatoire, mais tous les gens qui parlent, c'est pourquoi que souvent, il faut pas juger les gens.
Ah non, parce que les gens de métier, c'est un peu différent. Je ne l'avais pas lu. Alors, du coup, il y a des endroits.
Mais c'est pourquoi je trouve ça très bien.
Regarde ça. Oui. Je m'en tirais très difficilement.
Ça, c'est bon, là, je dis. Je trouve ça étonnant, justement.
Et puis j'ai la voix très fêlée, très très fêlée dans ce moment-là. Oh, si, j'ai un peu.
Bon, tout petit peu plus maniéré.
Là, avec le futur, on est bien obligé. On ne peut pas parler tout à fait naturellement. Je le lirai plusieurs fois.
Très bien.
Je le lirai plusieurs fois, je ne serai pas là que ça.
Je comprends l'histoire, vous avez trop insisté sur les choses.